Il y a 230 ans, presque exactement, dans un de ces cahiers de doléances dont on nous parlait à l'école lorsqu'on apprenait la Révolution, il y a 230 ans, presque exactement, ces mots qui aujourd'hui résonnent étrangement. Sire, nous sommes accablés d'impôts de toutes sortes. Nous vous avons donné jusqu'à présent une partie de notre pain et il va bientôt nous manquer si cela continue. Si vous voyez les pauvres chaumières que nous habitons, la pauvre nourriture que nous prenons, vous en seriez touché. Cela vous dirait mieux que nos paroles, que nous n'en pouvons plus et qu'il faut nous diminuer nos impôts. Ce qui nous fait bien de la peine, c'est que ceux qui ont le plus de biens paient le moins. Nous payons la taille et le clergé et la noblesse, rien de tout cela. Pourquoi donc est-ce que ce sont les riches qui paient le moins et les pauvres qui paient le plus ? Est-ce que chacun ne doit pas payer selon son pouvoir ? Sire, nous vous demandons que cela soit ainsi parce que cela est juste. 1789, extrait du cahier de doléances des paysans de Culmont. 1789, il y a 230 ans, presque exactement.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quelle doléance exprime mon invité aujourd'hui ? Elle est philosophe, historienne, spécialiste entre autres de la Révolution française et observatrice avisée de son époque. Bonjour Mona Ozouf.
Bonjour Augustin Trapenard.
Merci beaucoup d'être là ce matin. Que sont devenus nos cahiers de doléances ?
Ah, du point de vue des archives, c'est un trésor d'informations. C'est au fond la première grande consultation publique en France, de la France de la fin de l'Ancien Régime. Et le texte que vous avez lu est presque un texte canonique. Si on avait à choisir un texte qui résumerait l'ensemble de ces 60 000 cahiers, malgré tout, on choisirait un texte de cette nature, c'est-à-dire tout entier axé sur le besoin vital. Nous ne pouvons plus vivre, nous n'y arrivons plus, nous n'en pouvons plus. Avec, malgré tout, une immense différence par rapport à la doléance d'aujourd'hui, c'est l'adresse presque effusive au roi. Et la reconnaissance vis-à-vis du roi qui donne la possibilité de s'exprimer à la commune ou à la paroisse ou au bailliage que vous citez. Alors, on cherchait en vain dans la doléance d'aujourd'hui un accent effusif pour Emmanuel Macron.
Pendant la Révolution, qu'exprimait-elle ces doléances ? De quelle nature étaient-elles ? Sur quoi est-ce qu'elles portaient ? Sur tout ?
Oui, elles étaient de nature très différente selon le rédacteur, parce qu'il faut savoir que la spontanéité n'était pas entière. Il y a des villages où personne ne parlait français.
Il fallait écrire, il fallait parler.
Il fallait donc mettre en forme la doléance, et c'était très souvent la plume éclairée du village qui tenait, qui pouvait exprimer la doléance. Donc c'était le notaire, c'était le curé. Et donc ça transforme quand même souvent beaucoup la revendication la plus proche du besoin vital. Mais il y a beaucoup de revendications qui feraient consonance avec aujourd'hui. Par exemple, la demande d'un chemin vicinal.
Oui.
Pour, une demande de transport.
Le sentiment aussi, Mona Ozouf, de ne pas être bien représenté par ses dirigeants, qui revient tout le temps.
Le sentiment d'humiliation, le sentiment de mépris. Là encore, il y a une ressemblance extraordinaire. C'est ce qu'on a appelé pour l'Ancien Régime la cascade de mépris qui descend du plus haut degré au plus bas. Au fond, il y a quelque chose qui est d'ailleurs très intéressant, qui est la force de l'humiliation, qui est presque un des sentiments sans doute qui nous tient le plus longtemps. Je crois que chacun de nous aurait un souvenir d'humiliation enfantine sur un détail très menu et qui pourtant continue de nous habiter. Donc il y a là quelque chose de commun.
On en parlera peut-être plus tard au sujet de la Bretagne. Pourtant aujourd'hui, vous le disiez quand vous parliez du roi, nous sommes une démocratie, nos représentants sont élus librement, nous les choisissons. Est-ce que vous diriez que notre démocratie est en crise, Mona Ozouf ?
Oui, bien sûr. Elle est en crise parce que désormais, tout élu est au bout de quelques mois, enfin tout élu au sommet de l'État, est au bout de quelques mois l'objet d'un bashing, comme on dit aujourd'hui, qui peut être d'ailleurs très différent de ton, mais qui se produit de toute manière. Donc, il y a la défiance. Nous vivons dans un monde de la défiance. Là, ça fait une grande différence avec les doléances dont nous sommes partis. grande différence. C'est qu'il y avait là une sorte de confiance. Il y a une confiance dans le roi, mais il y a aussi, chez les hommes qui entrent en révolution, une grande confiance dans ce qu'ils vont faire.
Mais pensez-vous que ce mouvement des Gilets jaunes, puisqu'on parle de cela aussi, puisse mener, comme en 1789, à une révolution, à un renversement, à une réinvention des institutions ?
Non, je ne crois pas, parce qu'il manque... pour faire une révolution, il faut un projet, il faut une espérance, il faut un récit.
Mais vous dites un projet de société, un rêve de société.
Oui, un rêve de société, qui peut être d'ailleurs un rêve chimérique, mais qui existe. Là, je n'ai pas l'impression qu'il existe. Et du reste, j'ai regardé cette nuit, pendant une insomnie, la rediffusion du débat d'Emmanuel Macron avec... les intellectuels.
Diffusé sur France Culture, notamment.
Qui était sur France Culture. Et j'ai été quand même frappé par l'extraordinaire dénivellation entre la complication des problèmes abordés par les économistes, par exemple. L'extrême complication, quand on la compare au caractère élémentaire de la revendication des Gilets jaunes, je dis élémentaire, pas au sens sommaire, mais voilà, au sens originel, vital, oui, de la revendication, très simple, on se dit, mais comment combler cet écart-là ?
Est-ce que ce ne serait pas aussi, aujourd'hui, une crise de l'imagination à laquelle on assiste, Mona Ozouf ?
Oui, probablement parce que l'imagination n'est pas à l'aise dans un monde qui est peuplé d'images.
Oui.
Qui est tellement riche d'images qu'il ne laisse plus beaucoup de place à l'imagination.
Dans l'introduction de votre dernier livre, Portrait d'une historienne, vous nous parlez d'une autre possible crise, qui est celle du sentiment national. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est pour vous, le sentiment national ? Qu'est-ce qu'il définit ?
Qu'est-ce qui définit le sentiment national ? Enfin, le sentiment national, d'abord, de façon très simple, c'est pour chacun de nous la possibilité de dire « nous les Français ».
Oui.
Ou « nous les Bretons » d'ailleurs aussi. Ou nous les Auvergnats. Mais bon, donc c'est la possibilité de se sentir un collectif. Or, ce sentiment est effectivement en crise pour beaucoup de raisons. Et il s'agit de savoir si ce sentiment subsiste encore. Je suis un peu triste quand je relis le texte que j'ai donné en sorte de préface à ce livre, qui n'est pas mon livre, qui est un livre de textes sur... mes textes ou sur mes écrits, sur mon travail. Mais je suis un peu gênée parce que j'ai fini sur une note irénique. Mmh. Et cette note irénique est venue de la bouffée d'optimisme qui m'avait saisie après les attentats de janvier 2015, en participant à l'immense manifestation, la plus grande de notre histoire. Et en me disant que cette manifestation disait quelque chose de la France comme, patrie littéraire. Patrie de la liberté d'expression et du crédit accordé à l'expression. Foule qui brandissait des crayons, oui, et non des armes. Manifestation qui venait après l'attaque d'une rédaction.
Celle de Charlie Hebdo.
Celle de Charlie Hebdo, et donc qui disait quelque chose d'un attachement séculaire de la France à ses écrivains, aux gens qui prennent la parole, aux gens qui s'expriment, etc.
Mais alors qu'est-ce qui s'est passé, Mona Ozouf ? Pourquoi le fait d'être français n'est pas porteur de promesses et de rêves ?
Bon, probablement il peut l'être encore. La preuve dans ce type de sursaut, mais passer de cet épisode de confiance retrouvée dans les ressources de la nation à notre société actuelle, enfin aux épisodes actuels qui nous hantent parce qu'ils passent en boucle partout dans les médias, c'est effectivement, oui, c'est descendre quelques échelons. Et c'est pourquoi je dis que j'ai peur d'avoir conclu à cette époque sur une note trop optimiste.
Pour vous, Mona Ozouf, qu'est-ce que ça veut dire, se sentir française ?
Écoutez, je souris pourquoi ? Parce que quand je vous écoute, je me dis toujours, je pense à vos interlocuteurs, parce que vous avez le génie de poser au milieu de l'émission la question océanique. C'est-à-dire, vous dites, c'est quoi la poésie?
Oui, c'est quoi une actrice?
C'est quoi pour vous le corps?
Mais vous savez que les plus belles réponses naissent de ces questions, oui, extrêmement larges et océaniques,
oui,
comme vous dites.
Oui, mais c'est-à-dire qu'il faudrait un traité de philosophie pour répondre.
Non, j'ai bien dit pour vous.
Non, d'accord, mais... En fait, vous posez des questions pour lesquelles il faudrait écrire un traité d'histoire ou de philosophie, et votre interlocuteur est sommé de répondre en deux lignes. Du coup, j'ai perdu le fil, j'ai oublié votre question.
Qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous, se sentir française ?
Eh bien, je pense, si j'avais à définir l'identité française, je dirais que la France est effectivement le pays de la littérature, que c'est le pays des femmes, que c'est le pays d'une certaine forme de civilité, en quoi, vous voyez, je suis extrêmement loin de tout ce qui peut s'exprimer aujourd'hui.
C'est une réponse océanique, voici. Celles qui ne se sont pas françaises, mais alors vous savez que c'est par pur esprit de contradiction et malhonnêteté intellectuelle en tout cas, beaucoup plus que par conviction, c'est la culture, figurez-vous, et son actualité. Tati Daniel, que se passe-t-il donc aujourd'hui lundi 25 mars?
Il faut savoir que 41% des auteurs professionnels sont très en dessous du SMIC, et comme ça fait 15 ans qu'on ne sait plus comment dire au gouvernement qu'on s'en sort plus, y a des gens qui arrêtent déjà et qui sont nombreux.
Gaffe au GAFA à la veille du vote au Parlement européen de la réforme des droits d'auteur dans le marché numérique. 171 artistes et créateurs ont signé hier une tribune dans le JDD pour interpeller les eurodéputés. Portés notamment par Jean-Jacques Goldman, David Guetta, Louane, Benjamin Biolay, le texte demande une rémunération plus juste des auteurs dont les œuvres sont diffusées par les géants du net comme YouTube, Google, Facebook. Nous défendons le droit d'écrire notre histoire et non de vivre celle que les géants ont décidée pour nous, écrivent-ils. On soutient.
Invaders.
Horreur de gloire, le cinéaste américain Larry Cohen est mort samedi à l'âge de 77 ans. Il était l'un des pionniers du cinéma d'horreur, l'auteur culte des séries B sanglantes et jouissives. Contemporain de Wes Craven ou John Carpenter, Larry Cohen avait commencé sa carrière dans les années 60, notamment comme créateur de la série mythique Les Envahisseurs, réalisateur d'une vingtaine de longs métrages qui, sous couvert de gore, n'ont eu de cesse de montrer les dérives de l'Amérique contemporaine. On lui doit notamment des classiques comme It's Alive ou The Stuff, R.I.P. Larry.
Il est l'or, monseigneur.
C'est l'or, monseigneur, lors du lancement de la collection des pièces historiques pour le patrimoine. La Monnaie de Paris met aujourd'hui en vente 12 pièces thématisées de 10, 50 ou 200 euros qui revisitent les grandes dates et les grands personnages de l'histoire de France, de Vercingétorix à Dagobert, en passant par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen parrainée par Stéphane Bern. L'opération verra une partie de sa recette reversée à la Maison pour le patrimoine. Alors, euros ?
Attention, le voici, puissant, félin, redoutable, le jeune.
Yes, you can, toi le jeune, si tu as entre 18 et 28 ans, que tu es passionné de cinéma et que tu es libre entre le 15 et le 17 mai ou entre le 23 et le 25, tu vas pouvoir venir sur la Croisette. Car pour la deuxième année consécutive, le Festival de Cannes organise son opération 3 jours à Cannes, destinée à faire découvrir aux jeunes cinéphiles du monde entier la magie de la sélection officielle. Pour tenter sa chance, rien de plus simple, il suffit d'envoyer dès maintenant une lettre de motivation via le site festival-cannes.com à vos stylos les genoux. Et l'historienne et philosophe Mona Ozouf, invitée de Boomerang ce matin, je vous demandais tout à l'heure sur quoi reposait pour vous le sentiment d'être française, question océanique s'il en est. Avec quelle idée de la France est-ce que vous avez grandi, vous ?
Oh, j'ai grandi avec une idée qui était de nature à me rendre tout à fait perplexe sur le sentiment national, parce que j'ai été élevée dans une famille d'instituteurs bretons, instituteurs publics bretons, mais mon père était un militant de l'idée régional, peut-être même frotté d'autonomie. Et du coup, la France n'était pas la maison, ce que j'appelle la maison, n'était pas très amicale à la France.
Ce qui est passionnant, c'est que vous expliquez que pendant longtemps, être breton rimait avec un sentiment de honte. Oui. D'où venait-elle cette honte ?
Oh, c'est tout à fait simple. Elle venait de la réputation que les écrivains français ont si longtemps fait à la Bretagne et aux Bretons. Les Bretons étaient des corps mal lavés, des esprits grossiers et des êtres qui ne pouvaient parler leur langue qu'avec un baillon dans la bouche, disait Mérimée. Et donc, cette image de la Bretagne répandue par les écrivains français était quelque chose que, à la maison, j'ai appris très très jeune à détester. Par exemple, une des détestations de la maison était Madame de Sévigné, oui, qui avait osé dire de nous, les Bretons, « mea culpa », c'est le seul mot de français qu'ils sachent. Qui était comme... Voilà. Donc, j'avais la tête pleine, enfant, de ces remarques désobligeantes.
Et comment les Bretons sont-ils parvenus à dépasser ce sentiment? Comment la fierté a-t-elle pris le pas sur la honte?
Eh bien, écoutez, c'est l'histoire de l'intervalle qui sépare mon enfance de mon grand âge. C'est tout à fait ça, parce que ce qui me frappe désormais quand je mets les pieds en Bretagne, ce qui m'arrive aussi souvent que possible, c'est l'extraordinaire fierté bretonne. C'est la Braise Pride.
C'est la Braise Pride.
Oui, c'est exactement.
On y va, Mona, la Braise Pride.
C'est exactement ça. Et c'est-à-dire, et oui, une fierté qui même peut-être parfois peut flirter avec un brin d'arrogance ou de supériorité. Alors pour moi, c'est à la fois un plaisir et aussi une surprise, parce que ce qui était le leitmotiv de mon enfance, c'était délivrer les Bretons de ce sentiment de honte et d'infériorité de l'image de Bécassine, par exemple.
Qui n'avait pas de bouche,
on se souvient. Qui n'avait pas de bouche.
L'un des enjeux, à la fois de la honte et de la fierté, c'est évidemment la langue. Mona, quelle langue est-ce que ça a été pour vous, le breton?
C'est moins océanique que la plupart de vos questions. C'est ma langue maternelle. Oui. C'est ma langue maternelle, parce que mes parents avaient décidé de m'apprendre le breton, de parler breton à la maison, avant ma contamination possible par l'école jacobine.
Et pourquoi vous avez cessé de le parler?
Oh, c'est lié, hélas, à la mort de mon père. C'est mon père qui était le militant de la langue bretonne. Ma mère suivait tout à fait cet objectif. Mais après sa mort, j'avais 4 ans, c'est arrivé très tôt, c'est ma grand-mère qui m'a élevé. Et ma grand-mère était une paysanne léonarde en coiffe, forte personnalité, mais qui était, je l'ai déjà dit et écrit plusieurs fois, l'agent secret du français à la maison. Pourquoi? Parce que, pour elle, l'accès au français, qu'elle parlait, ah oui, avec quelques fautes, et elle avait appris à lire et à écrire très tard dans la vie, à 24 ans. Donc, elle était beaucoup plus à l'aise, évidemment, dans la langue bretonne, et dans le trésor de proverbes, d'expressions de toutes sortes, très imagées, qu'elle employait en breton. Mais elle préférait s'adresser à moi dans le français sommaire, qui était le sien. Parce qu'elle vivait de la conviction que, muni de ce talisman, oui, de la langue française, voilà, les ruraux, les gens les vrais gens, comme on dirait aujourd'hui, auraient moins de mal, parce que c'était l'accès à la ville, aux emplois.
Il se trouve que c'est un texte sur la Bretagne que vous nous avez écrit ce matin, et j'aimerais, si vous voulez bien, que vous nous le lisiez.
Si vous voulez. Au cours élémentaire, la maîtresse nous faisait voir notre situation excentrique, tout à gauche de la carte. Surtout pas à gauche, disait-elle, il faut dire à l'ouest. Je me représentais alors la Bretagne comme une barque. Cette barque, sans doute, s'était embourbée du côté de ces compactes marches orientales. Mais j'imaginais quelque accident sismique, un raz-de-marée, qui permettrait à la nacelle bretonne de larguer ses amarres vers plus d'ouest encore. Rêve enfantin, je le poursuis aujourd'hui dans le train de Montparnasse, entre Laval et Vitré, en guettant les signes qui, en dépit de la continuité du bocage, attestent qu'on entre en Bretagne. Maison basse, décrochement spasmodique des pignons, bleu des ardoises, blanc des crépis, argent du granit que le lichen fleurit. Au printemps, sur les talus, les bouquets de lait, en breton, les primes verts. En automne, la bruyère. En toute saison, le vent d'ouest, ce juge du temps, dont les souffles vifs annoncent une mer proche, quoique invisible. C'est une autre terre. La pragmatique Bretagne d'aujourd'hui arbore la fierté d'avoir su, sabot joint, sauter dans la modernité. Pourtant, l'irrationnel s'y mêle toujours à l'existence quotidienne. Ici, comme l'a écrit Charles Le Quintrec, Dieu vient chaque jour boire un verre en voisin. Elle a beau n'être pas devenue l'île de mes fantasmes d'autrefois, pour accoster, on doit rompre une amarre intérieure, prendre peu ou prou la mer.
Rompre une amarre intérieure, qu'est-ce que ça voudrait dire ?
Ça voudrait dire entrer dans un monde qui reste habité par l'invisible.
Ça, c'est une belle réponse. Voyez comme vous êtes. On va continuer à parler de rêves et de France juste après Diams. Tiens, parce qu'on est lundi et que ça fait du bien. C'était en 2006. Ma France à moi, vous êtes sur France Inter avec Mona Ozouf. Vous écoutez Boomerang.
Ma France à moi, elle parle fort. Elle vit à bout de rêve, elle vit en groupe, parle de bled et déteste les règles. Elle sèche les cours le plus souvent pour ne rien foutre. Elle joue au foot sous le soleil, souvent du coca dans la gourde. C'est le hip-hop qui la fait danser sur les pistes. Parfois elle kiffe un peu de rock, ouais si la mélodie est triste. Elle fume des clopes et un peu de shit, mais jamais de drogue dure. Héroïne, cocaïne et crack égale ordure. Souvent en guerre contre les administrations, leurs BEP mécaniques ne permettront pas d'être patron. Alors elle se démène et vend de la merde à des bourges, mais la merde ça ramène à la mer un peu de bouffe, ouais. Parce que la famille c'est l'amour et que l'amour se fait rare. Elle se bat tant bien que mal pour les mettre à l'écart. Elle a des valeurs, des principes et des codes. Elle se couche à l'heure du coq car elle passe toutes ses nuits au phone. Elle paraît feignante mais dans le fond elle perd pas de temps. Certains la craignent car les médias s'acharnent à faire d'elle une cancre. Et si ma France à moi se valorise, c'est bien sûr pour mieux régner. Elle s'intériorise et s'interdit de saigner. Non,
c'est pas ma France à moi cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre.
Ma France à moi, elle parle en SMS, travaille par MSN, se réconcilie en mail et se rencontre en MMS, elle se déplace en skate, en scoot ou en bolide. Basile Boli est un mythe, des inédites sans synonyme, elle. Il faut pas croire qu'on la déteste, mais elle nous ment, car nos parents travaillent depuis 20 ans pour le même montant. Elle nous a donné des ailes, mais le ciel est VIP, peu importe ce qu'ils disent, elle sait gérer une entreprise, elle. Vie à l'heure américaine, KFC, MTV Base, Footlocker, McDo et 50 Cent, elle. C'est des petits mecs qui jouent au basket à pas d'heure, qui rêvent d'être Tony Parker sur le parquet des Spurs, elle. C'est des petites femmes qui se débrouillent entre l'amour, les cours et les embrouilles, qui écoutent du rail, R&B et du zouk. Ma France à moi, elle se mélange. Ouais, c'est un arc-en-ciel, elle te dérange, je le sais, car elle ne te veut pas pour modèle.
Non, c'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre.
Ma France à moi, elle a des halls et des chambres où elle s'enferme. Elle est drôle et Jamel Debbouze pourrait être son frère. Elle repeint les murs et les trains parce qu'ils sont ternes. Elle se plaît à foutre la merde car on la pousse à ne rien faire. Elle a besoin de sport et de danse pour évacuer. Elle va au bout de ses folies au risque de se tuer. Mais ma France à moi, elle vit, au moins elle ouvre, au moins elle rit. Elle refuse de se soumettre à cette France qui voudrait qu'on bouge. Ma France à moi, c'est pas la leur. Celle qui va d'extrême, celle qui bannit les jeunes en tirant sur la FM. Celle qui se croit au Texas, celle qui a peur de nos bandes. Celle qui vénère Sarko, intolérante et gênante. Celle qui regarde l'UNESCO et regrette le temps.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Ah bah, elle est bretonne, ça se voit tout de suite, et c'est absolument délicieux avec son regard bleu, vous savez, que l'on croirait chargé d'eau de mer, curieux, rêveur, malicieux, ses cheveux, qu'on imagine constamment ébouriffés par le vent, tandis qu'elle se promène d'aber en aber par gros temps, la manière dont elle se tient, de prime abord humble, discrète, mais prête à tout moment à vous clouer le bec, avec un bon mot, un mauvais sort ou un coup de cidre fermier. Très élégante ce matin, l'historienne et philosophe Mona Ozouf, invitée de Boomerang, et on le disait, Mona, vous êtes née en Bretagne au début des années 30, vous avez suivi un parcours académique remarquable qui vous a mené là où vous êtes aujourd'hui. Dans ce parcours, dans cette vie, quel rôle a joué l'école ?
Évidemment, un rôle fondamental. D'abord parce que dans mon enfance incroyablement solitaire, après la mort de mon père, la maison s'est fermée. Et c'est une existence presque claustrale. De temps en temps, quand mes petites filles me demandent quels étaient mes loisirs, enfant, je reste couette. Je ne sais quoi dire. Mes loisirs, c'était les livres.
Point Donc final. C'était le lieu d'une sociabilisation, en fait, l'école.
Et l'école était le lieu, c'était un lieu enchanté pour moi. Parce que c'était le lieu de, voilà, de ma reconnaissance comme individu sans qualité.
Ah.
Sans spécification. C'était ça la merveille de l'école publique. On déposait toutes ses particularités à l'entrée.
C'est ce qu'il incarne dans l'idéal républicain, ce lieu.
Et c'est oui, c'est l'idéal républicain de l'école. Et pour moi, ça a été quelque chose de tout à fait libérant. Et voilà, j'ai adoré l'école, bien sûr. Plus encore, probablement, la cour de récréation.
À Donjon.
Bien sûr. Ça me fait penser, il y a un texte de Sartre là-dessus qui dit qu'il a été ébloui le jour, je vais citer de travers parce que mes souvenirs sont brumeux, où il a été ébloui le jour où, en jouant dans la cour, on lui a dit « Ben viens ici Sartre !» Quelque chose comme ça. Qui est au fond une sorte de fraternité immédiate, originelle. Et ça, c'était très... Oui, ça m'a beaucoup plu.
Aujourd'hui, Mona Ozouf, quel regard est-ce que vous portez sur l'école de la République, vous qui n'avez cessé de faire de l'enseignement un objet d'étude?
Écoutez, je suis un peu perplexe parce que... Oui, je suis perplexe. Je vous prends un exemple. On fait honneur aujourd'hui à Jean-Michel Blanquer de réintroduire les drapeaux dans les classes. Moi, ça me laisse un peu rêveuse, cette affaire, parce que Jean-Michel Blanquer est quand même l'homme qui a accepté que la semaine soit réduite à 4 jours. Et non pas à 4 jours et demi. Ça a l'air quelque chose de tout à fait mince. En fait, c'est très important. Parce que les enfants français sont ceux qui passent le plus d'heures par jour à l'école et qui ont le plus de vacances. Chercher l'erreur. À mon avis, il faut mettre les enfants dans les classes plus souvent. C'est plus important que de mettre des drapeaux dans les classes. Mais je reviens à cette histoire de drapeaux et à l'obligation d'apprendre par cœur la Marseillaise. Je suis pas hostile parce que je suis très favorable à ce qu'on apprenne quelque chose par cœur, de toute façon. Mais il y aurait une manière, s'il faut vraiment développer le sentiment de la patrie chez les enfants, ce que je peux tout à fait comprendre, il y a mieux à faire, quand même, que de faire apprendre des paroles de la Marseillaise qui sont sans grâce. Et je suis modeste en disant ça.
Et bien placé, surtout, pour le dire.
Et il y aurait un moyen beaucoup plus simple et beaucoup plus intéressant, c'est que on pourrait dire, par exemple, qu'en sortant de l'école communale, chaque enfant français doit savoir par cœur 4 beaux poèmes sur la France. On a le choix. On pourrait commencer par Charles d'Orléans et par les poètes de l'exil. On pourrait, en passant par Lamartine et Hugo, qui alors serait une mine, on pourrait finir par Aragon. Ma patrie est comme une barque qu'abandonnèrent les haleurs et je ressemble à ce monarque, etc. Voilà. Imaginez que les enfants français sachent, en sortant de l'école communale, 4 poèmes à la gloire de leur pays.
Ça serait sans doute plus efficace. Pour vous, comment vous la regardez, notre jeunesse, cette jeunesse qui se mobilise, qui récemment encore est descendue dans la rue pour protester contre l'inaction du gouvernement concernant le changement climatique? Qu'est-ce que ça vous inspire, ça?
Plutôt de la confiance, retrouvée. Oui, beaucoup de confiance retrouvée.
Vous l'aviez perdue à un moment donné, la confiance? Pour qu'elle soit retrouvée, Mona Ozouf.
Oui, je l'ai perdue. Oui, elle est en train de subir des assauts. Je suis plus inquiète que je n'étais il y a quelques années. Beaucoup plus inquiète.
Vous savez ce qu'on va faire maintenant? On va lire des poèmes tous les deux. Et je voudrais vous remercier d'abord d'être venu faire un tour dans cette émission. Et je rappelle que votre dernier ouvrage, Portrait d'une historienne, même si c'est pas exactement le vôtre, vous avez raison, il y a un très beau texte de vous au début, est publié chez Flammarion, et qu'un très bel entretien de vous est à découvrir dans la nouvelle revue trimestrielle Zadig. Merci pour tous ces éclairages, en tout cas, pour ces lumières, je voudrais dire. Et tout de suite, c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers, juste après ça.
Et Flore de Sonio, Fleur de rêve sur France Inter. Et tout de suite Sonia De Villers en parlant de rêve.
Et de fleurs.
Et de fleurs.
À demain, Augustin.
À demain, Sonia.